jour, de la question.
Qu'est-ce que ça va changer?
Comment ça se passe ailleurs?
Pourquoi ça?
En quoi ça nous touche?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver avec Charles Pélabon à la réalisation pour nous en mettre plein les yeux aujourd'hui en découvrant ensemble l'incroyable richesse et la fabuleuse diversité du monde minéral. Cristaux géants, pierres précieuses, météorites, roches multicolores, diamants transparents. Ces trésors de la Terre, formés depuis des millions d'années, sont exposés dans la galerie de minéralogie du Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris qui rouvre ses portes pour donner à voir l'une des plus prestigieuses collections de minéraux au monde, tant par sa taille que par sa valeur scientifique et historique, car toutes ces pierres, tous ces minéraux ont une vie et une histoire que nous vous proposons de découvrir avec nos invités, François Farge, professeur de minéralogie au Muséum d'Histoire Naturelle, et Cristiano Ferraris, chargé de conservation pour la collection de minéralogie, autour de la question « Pourquoi les pierres sont si précieuses ?» Bienvenue. Bonjour François Farge.
Bonjour Caroline.
Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes professeur de minéralogie au Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris et à l'Université de Stanford en Californie, avec une double spécialité, à la fois en minéralogie environnementale pour toutes les questions de pollution par les minéraux notamment, mais aussi en minéralogie patrimoniale. C'est vous qui avez redécouvert le mythique diamant bleu de Louis XIV et retrouvé la véritable histoire du grand saphir, on y viendra, hein, sur l'histoire rocambolesque de ces pierres ô combien précieuses. Mais pour vous, François Farge, on peut dire que toutes les pierres sont précieuses, que toutes ont une histoire, en lien d'ailleurs avec nous les hommes.
Oui, en effet, tous les minéraux ont une valeur, j'irais, inestimable, au sens que ils sont tous des livres ouverts. Même un petit caillou qu'on a trouvé dans le jardin peut avoir une histoire extraordinaire qui va nous renseigner sur des cataclysmes extraordinaires entre montagnes, la dérive des continents, les extinctions d'espèces et des tas de phénomènes géologiques qui ont formé cette terre sur laquelle nous vivons.
Et le muséum est le lieu donc de beaucoup de ces histoires géologiques, minérales et humaines. Près de 130 000 spécimens fabuleux recueillis depuis bientôt 400 ans. Cristiano Ferraris, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors vous êtes maître de conférence au muséum, chargé de conservation de cette fabuleuse collection de minéralogie que l'on peut donc découvrir à la fois aujourd'hui dans un livre assez extraordinaire, hein, franchement, coédité par Artlis et le muséum, et dans une exposition, elle aussi fabuleuse, Les Trésors de la Terre, où l'on peut notamment redécouvrir d'extraordinaires cristaux géants. Cette galerie de minéralogie, moi j'ai envie de dire que c'est une vraie galerie des merveilles pour vous aussi, Cristiano Ferraris.
C'est une merveille parce que c'est le résultat d'un effort énorme pour montrer ce que est la minéralogie aujourd'hui. Ça veut dire un mélange de science, patrimoine, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on montre plein d'objets qui sont appartenus à tête couronnée, pas seulement de France, mais aussi d'Europe, et ce qui est la minéralogie aujourd'hui, donc un mélange entre la chimie inorganique et la chimie organique, donc un monde entièrement à découvrir, si on pense aussi aux missions extraterrestres sur Mars, qui caractérisent nos jours et nos infos de ces temps.
Autour de la question, pourquoi les pierres sont si précieuses, on commence par tenter de cerner cette incroyable géodiversité par quelques pistes d'émerveillement sonore avec le mix forcément minéral de Charles Pélabon.
Il y a 4 milliards et demi d'années, quand le système solaire s'est formé, il y a des minéraux qui sont les premiers minéraux qui vont donner naissance aux planètes.
Mais regarde ce bizarre !
Il est tout rouge
avec des paillettes.
C'est joli. Qu'est-ce que c'est ?
On dirait que ça vient d'une autre planète.
Un peu comme une météorite tombée du ciel.
Je pensais pas être surpris comme ça par des cailloux.
Jules Verne avait imaginé et décrit dans son voyage au centre de la Terre une grotte fabuleuse, emplie de cristaux géants translucides.
Ce quartz, on le regarde et on s'amène à se poser des questions. Pourquoi ces formes ? On se demande d'où viennent leurs couleurs.
Cobalt, cuivre, étain, tungstène, or.
Actuellement, on trouve des minéraux de manière insoupçonnée dans des tas d'objets de la vie de tous les jours.
Coltan, minerai indispensable à la fabrication des condensateurs de nos tablettes, ordinateurs, caméras et consoles de jeu.
En 1789, on vole les joyaux de la couronne de France, sauf un. Le grand saphir bleu de Louis XIV de 135 carats.
Maman, est-ce que j'en ai moi aussi des saphirs qui font du feu dans les yeux?
Cette pierre a été trouvée en tamisant la terre.
Afin de localiser le mal, le chaman utilise un énorme diamant. Posé sur le visage du patient, le cristal sera le médiateur permettant de lire ses problèmes de santé.
La minéralogie est une science qui s'est développée beaucoup au XVIIIe siècle, pendant le siècle des Lumières.
C'est comprendre comment fonctionne au niveau des matériaux une planète comme la Terre.
Les pierres parlent, il faut savoir les faire parler.
Comprendre les interactions fines entre des organismes vivants et des minéraux.
J'organise un concert et je dis aux gens, écoutez ces pierres avec cette espèce de candeur de l'oreille qui simplement entend comment cette matière devient parfois fluide, devient parfois poussière et parfois très dure, résiste, rebondit ou au contraire dérape.
Et oui, on peut même jouer avec les pierres extraits du concert de pierre du compositeur Nicolas Frise. Vous voulez réagir à ce que vous venez d'entendre ?
Oui, il y a effectivement beaucoup de choses. Oui, il y a des voix qu'on a bien reconnues. Et puis effectivement, ce composite que vous avez fait illustre magnifiquement bien, effectivement, toutes les facettes du monde minéral. C'est un feu d'artifice de couleurs, d'éclats, de brillance.
C'était difficile à faire passer à la radio autour de la question pourquoi les pierres sont si précieuses. Déjà, intuitivement, on fait comme ça une différence entre êtres vivants et minéraux qui semblent inertes. Or, c'est un peu plus compliqué que ça. Qu'est-ce que c'est qu'un minéral ?
Donc un minéral, point de vue strictement scientifique, c'est un composé inorganique, donc qui est issu d'un processus géologique. Mais on se percevoit aujourd'hui que c'est pas strictement vrai, parce qu'il y a plein de minéraux qui sont pas, qui se forment grâce à des phénomènes liés à la vie. Notamment nos dents, notre squelette, il est plein de minéraux.
C'est un alliage là de vivant et de minéral.
Nous on reste debout parce que notre squelette il contient des cristaux d'apatite. L'apatite c'est un phosphate de calcium. Nos dents nous pouvons mâcher et se nourrir parce que nos dents ils sont si résistants grâce à la présence aussi de cristaux d'apatite qui forment des palissades, donc la structure portante de nos dents. Donc vous voyez, au-delà des définitions scientifiques, il faut toujours se confronter avec ce qui est la vie. Et ce qui est apparemment inerte, parce qu'il ne faut pas oublier que les minéraux ils ne naissent pas comme ça. C'est des objets qui se forment, qui grandissent et qui se détruisent. Mais
eux aussi évoluent et qui en plus, du coup, vous le disiez aussi, racontent, François Farge, l'histoire de notre Terre, puisqu'ils sont là depuis des millions d'années, qu'ils ont évolué avec elle.
Oui, depuis leur cristallisation, qui est un peu l'équivalent à la parabole de la naissance, leur existence, pas vraiment de vie, mais une existence.
Une existence, hein.
Et après, ils disparaissent parce qu'ils sont effectivement altérés. Et quand ils s'altèrent, ils se réadaptent à leur environnement. Donc, il y a non seulement cet aspect un peu évolutif, mais il y a aussi cet aspect d'adaptation qui rappelle beaucoup le vivant, sans être exactement le vivant, parce que les minéraux se désagrègent pour se recombiner, pour en faire d'autres qui sont adaptés à leur environnement. Par exemple, des minéraux des profondeurs peuvent s'altérer pour faire des argiles en surface, parce que justement, ils sont rééquilibrés aux conditions de la surface. Là où il y a de l'eau, là où il y a des pluies, là où il y a la lumière du soleil.
Ils évoluent voilà. Avec le vivant, ils évoluent en fonction de l'évolution générale. Mmh. Et ces trésors de la Terre, ils sont de couleurs absolument incroyables. Enfin, il y a des couleurs, des transparences, des éclats. Comment expliquer qu'il y ait une telle géodiversité ? C'est comme ça qu'on dit, hein ?
La géodiversité, elle est liée aux différentes conditions de formation, donc que ce soit la pression, que ce soit la température, mais surtout à la disposition, au grand nombre d'éléments chimiques qu'on a à disposition et sur notre planète et en dehors de notre planète.
Donc, si oui, vous parce prenez, qu'il y a aussi des météorites voilà, hein, si dans vous, la tout simplement, du
Muséum. Si vous prenez un bouquin de chimie du lycée ou de physique et vous regardez le tableau des éléments chimiques, vous apercevez tout de suite que vous faites tout simplement les combinaisons possibles entre tous ces éléments, vous obtenez un nombre incroyable de possibles minéraux, de possibles substances.
Et de possibles formes, de possibles couleurs, parce que c'est quand même ça qui est étonnant. C'est toutes ces formes. Quand on a l'impression qu'il y a certaines pierres, on a l'impression que ce sont des œuvres d'art contemporaine.
Oui,
d'autres, c'est un espèce de festival de couleurs. C'est insensé et c'est naturel.
Et non seulement tout ça est naturel, et la majorité des pierres naturelles que l'on présente au muséum n'ont pas été refaçonnées par nous le dimanche dans nos garages. Hein. C'est vraiment des échantillons pour la plupart qu'on a extraits et ils sont tels quels. Ceux que nous montrons qui sont modifiés par l'homme, c'est les pierres précieuses qui ont été facettées avec avec le polissage, mais en dehors de celle-ci, il y a aussi des objets d'art aussi qu'on montre, qui ont été faits à partir de minéraux. Mais la majorité des minéraux bruts qu'on voit dans la première partie de l'exposition, on les trouve tels quels. Et nous, c'est vrai que c'est tous les ans, on est bluffé, si vous me permettez l'expression, parce qu'il y a des nouvelles poches, des nouveaux filons qui sont découverts, et on voit des minéraux que l'on connaît souvent, mais associés ensemble ou avec des couleurs auxquelles on n'avait jamais pensé. La nature, c'est vraiment la mère de tous les créateurs.
Autour de la question pourquoi les pierres sont si précieuses, on écoute un diamant brut, celui d'Émilie Simon sur RFI. Simon sur RFI, autour de la question pourquoi les pierres sont précieuses, en compagnie du professeur de minéralogie François Farge et du chargé de conservation de la galerie de minéralogie du muséum Cristiano Ferraris. Tout de suite une nouvelle question pour les spécialistes de géodiversité minérale que vous êtes, messieurs. C'est celle de Pierre-Michel Forger, chercheur, lui, en écologie tropicale.
François, donc, comme tu le sais, en région tropicale, le bleu est une couleur extrêmement rare, notamment dans le sous-bois des forêts tropicales. Et j'ai visité la galerie. Pourquoi finalement il y a si peu de pierres précieuses bleues ?
Est-ce que c'est vrai ça, François Farge ? Est-ce qu'il y a peu de pierres précieuses bleues ? Il y en a quand même, hein ?
Alors, il y en a notamment le saphir. Des pierres précieuses, il y en a quatre. Hein. Donc, il y a diamant, rubis, émeraude et saphir. Donc, le saphir, le plus souvent, est bleu. Il peut être de plein d'autres couleurs. Donc, c'est peut-être l'une des moins rares des pierres précieuses. Mais comme c'est une pierre précieuse, c'est vrai que c'est rare. Hein. On ne trouve pas, effectivement, des saphirs dans son jardin ou même au fin fond, ou quand on en trouve au fin fond de la forêt tropicale, là où Pierre-Michel travaille, il faut creuser pendant très longtemps pour les trouver. Donc, c'est vraiment pas simple. Donc, effectivement, il a raison, c'est rare.
Mais quelle est la couleur la plus rare?
Ouais, la couleur la plus rare dans les pierres précieuses, je dirais, c'est certainement les diamants rouges et les diamants verts, qui sont, mais d'un beau vert, hein. Le vert émeraude, le diamant vert émeraude, ça existe. Bon, ça, c'est excessivement rare. Oui, le vert de Dresde, donc, qui est à Dresde, qui est le grand diamant de l'électeur de Saxe. C'est une pure merveille.
Vous avez également, François Farge, découvert, enfin redécouvert plutôt au muséum, hein, le diamant bleu de Louis XIV. Enfin,
j'aurais aimé de redécouvrir le diamant bleu, oui.
Mais une copie.
Oui, on a redécouvert un moulage d'un diamant qui n'avait pas de nom, qui était inconnu, qui avait été déposé dans les collections de façon assez discrète et qui s'est révélé être le moulage du grand diamant bleu de Louis XIV.
Le fameux grand diamant bleu de Louis XIV.
Le plus gros diamant sous le règne de Louis XIV, le plus gros diamant de la couronne. Les diamants bleus sont excessivement rares, donc c'était une acquisition du roi Soleil qui était extraordinaire. Et surtout, tout le monde recherchait un moulage de ce diamant-là qu'on ne retrouvait pas. Et on l'a retrouvé en faisant l'inventaire, puisque effectivement à l'époque j'étais chargé de conservation, des collections.
Et vous avez découvert plein de choses dans ce moulage.
Oui, il est d'une richesse extraordinaire. C'est l'un des premiers brillants de l'histoire de l'humanité. Donc le brillant n'est pas né à Venise comme c'était dit, c'est vraiment né à la cour du Roi Soleil à Versailles 30 ans plus tôt. Et il a une technique et d'une complexité, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais il a un nombre de facettes extrêmement élevé qui fait qu'il devait être extrêmement brillant. Et c'est surtout le roi avait compris, enfin le roi et ses conseillers, très certainement son joaillier, avaient compris que les diamants bleus étaient d'une très grande rareté, alors qu'à l'époque il était plutôt de bon ton de collectionner plutôt les diamants incolores. Et donc on avait un roi
qui était plus précieux à l'époque,
qui était considéré comme plus précieux parce que plus brillant, mais alors que les diamants rares, les diamants bleus, notamment les diamants de couleur, étaient considérés comme des accidents de la nature, donc c'était très mal vu. Mais justement Louis XIV a été au-delà de ces conventions, il a été très iconoclaste, certainement aidé par son joaillier, d'acheter une pierre dont même à l'heure actuelle on n'a pas retrouvé un diamant bleu aussi gros et en tout cas aussi beau.
Et il n'existe plus ce
Non, il a été volé, retaillé par les voleurs, il est maintenant aux États-Unis et effectivement la découverte du moulage a permis de retrouver de la filiation avec le diamant américain.
Et vous avez aussi reconstitué l'histoire de sa jumelle, du grand saphir.
Oui, parce que vraiment un bonheur n'arrive pas tout seul, et en cherchant dans les archives sur l'histoire du diamant bleu, je suis tombé sur l'histoire du saphir qu'on pensait connaître. Ben non, on la pensait pas, on la connaissait très mal, et en fin de compte je me suis rendu compte dans les archives que les deux pierres avaient été acquises par Louis XIV à peu près en même temps.
Le siècle des Lumières, le siècle de ces pierres précieuses-là.
Oui, le grand siècle donc de Louis XIV. Louis XIV était un grand collectionneur de diamants et de pierres précieuses. Louis XIV dépensait des quantités énormes d'argent. C'était sa grande passion dans les pierres précieuses. Tout autant, bien plus que les bâtiments ou les peintures. Et donc,
parce que les pierres, c'est un instrument de pouvoir aussi, enfin de richesse évidemment, mais de pouvoir. Hein.
Depuis les temps préhistoriques, les minéraux sont des instruments de pouvoir. Au début, c'était un siècle taillé. Après, c'était du fer, c'était du cuivre, du bronze, de l'or, etc. Après, plein de pierres précieuses. Et donc, et même de nos jours, le coltan est un instrument de pouvoir parce qu'il permet de faire
des smartphones
et les meilleurs smartphones ont les meilleurs coltans.
L'histoire des hommes, Cristiano Ferraris, elle est aussi intimement liée à celle des pierres, de toutes les pierres. Des pierres précieuses, mais pas seulement, et des minerais aussi.
Sûrement, l'utilisation de la roche. Il ne faut pas oublier que quand on parle d'une roche, c'est un ensemble de minéraux.
Oui, une roche, c'est toujours un ensemble de minéraux.
C'est un ensemble de minéraux, oui. Et a été toujours à la base de l'évolution de l'être humain. Donc, il faut pas oublier aussi que les êtres humains, ils étaient des grands artistes, et pour faire leurs peintures, ils utilisaient des minéraux qui étaient écrasés, réduits en poudre, qu'aujourd'hui on appelle des pigments.
Et c'est un minéral,
c'est un cristal, c'est une forme cristalline qui est réduite en poussière pour en faire des pâtes colorées pour décorer à l'époque les parois des cavernes, plus récemment les tableaux des châteaux, et encore aujourd'hui les pigments ils sont d'origine naturelle, ils sont plutôt d'origine synthétique, et ceux d'origine naturelle par contre ils ont des prix qui sont pas accessibles par tout le monde.
Oui, les pierres sont précieuses. Dans l'exposition, on découvre aussi celles qui ont été collectionnées et léguées au muséum par l'écrivain, le poète Roger Caillois, des pierres de rêve. Hein.
Les pierres de rêve, oui, Roger Caillois, il a légué sa collection au muséum au début des années 80, du siècle dernier, bien entendu. Et cette collection magnifique compte environ 200 objets. Une grande partie, c'est des roches, des tranches de roches polies qui lui servaient d'inspiration.
Et il y en a une, il y a le petit fantôme.
Il y a le petit fantôme qui est peut-être
la plus quartz.
C'est une agate, en effet. C'est une forme de oxyde de silicium, donc de quartz.
Et ça fait vraiment, ça dessine un petit fantôme.
Ça dessine un petit fantôme. Je vous invite à venir à la voir dans la première vitrine de l'exposition. Mais à part ça, vous avez toutes sortes de dessins et des graphismes magique.
Les pierres, hein, comme source d'inspiration autour de la question pourquoi les pierres sont si précieuses. On continue de s'émerveiller devant cette fabuleuse géodiversité et sur ce que tous ces pierres, minéraux, roches, cristaux racontent sur nous, hein, notre histoire, celle de la Terre, celle des hommes, celle des artistes. Suite dans 3 minutes, juste après le flash d'info, on se retrouve devant les trésors de la Terre exposés au muséum dans la galerie de minéralogie. À tout de suite.
Caroline Lachowski.
Bienvenue à vous qui nous rejoignez en toute transparence dans l'éclat du très mythique diamant bleu ou du cristal de roche. Pour cette deuxième partie autour de la question pourquoi les pierres sont si précieuses, nous sommes en compagnie du professeur de minéralogie François Farge du Muséum National d'Histoire Naturelle et de Cristiano Ferraris, chargé de conservation pour la collection de minéralogie du Muséum, dont les visiteurs peuvent désormais admirer quelques-uns des spécimens les plus fabuleux, comme les fantastiques cristaux géants par exemple. Visite guidée de tous ces trésors de la Terre au micro de Charles du Pio, en compagnie de deux pères et de leurs enfants, bouche bée.
On dirait une pastèque. Parce que c'est vert dans les côtés et c'est rouge à l'intérieur.
C'est une tranche de stalactite, c'est marqué.
C'est de la pyrite.
On a vraiment l'impression que ça a été façonné par un artiste. Quoi. Enfin, on se dit, mais comment il obtient des arêtes et des angles droits comme ça On a vraiment l'impression de deux cubes qui se fondent l'un dans l'autre, quoi. Comment ça marche? Il n'y a pas de moule pourtant. Ça a l'air d'être poli avec des outils, quoi. C'est hallucinant. Ces couleurs argentées, c'est quasiment du miroir. Je pensais pas être surpris comme ça par des cailloux.
Ce qui est troublant, c'est le mélange d'organisation très géométrique au milieu de ce qui semble être chaotique, presque organique. On a vraiment l'impression comme si soudain de la peau sortait une pointe de cristal. Mais c'est bizarre, parce qu'il y a vraiment une sensation, alors qu'a priori c'est minéral, donc c'est l'altérité totale, on n'a rien à voir avec les roches, quoi. Et je sais pas, il y a une impression, pas d'appartenir à la même espèce, mais d'être fait des mêmes choses. Parce que justement, c'est pas complètement organisé, c'est un peu chaotique et un peu organique, un peu vivant. On a l'impression que ça pourrait presque bouger, quoi.
Effectivement, la contemplation de ces pierres laisse pas du tout de marbre, provoque des sensations. François Farge, comment vous expliquez ça? À quel point ça remue de regarder des cailloux?
Je pense que
des sacrés cailloux. Hein.
Oui. La dernière personne qu'on vient d'entendre dit des choses extrêmement justes, d'une très grande sensibilité. Il y a à la fois une organisation et un chaos, dans le bon sens du terme. C'est-à-dire, les choses sont prévisibles dans la nature, mais la nature n'en fait qu'à sa tête. Et il y a dans la diversité minérale toujours quelque chose de très rafraîchissante, de très pure, de pas polluer justement, qui fait que...
Ça fait vibrer, c'est un peu bateau de dire ça, mais on a l'impression que ça fait vibrer.
Oui, ça fait vibrer parce que justement, on voit qu'il n'y a aucune pollution de quelque sorte que ce soit.
Et il y a ce côté brut, oui.
Et Roger Caillouette justement disait dans le livre Pierre en 66 que certains minéraux, il parlait de l'obsidienne en particulier, étaient le miroir de l'âme. Donc à travers ces minéraux, on se retrouve beaucoup de choses et peut-être des passions de chacun. On arrive, comme le minéral est apparemment inerte, il se laisse imprégner par... On projette énormément effectivement les visions que l'on a, peut-être les désirs que l'on a. Et effectivement, Il ne nous juge pas.
Et ce qui est troublant aussi en regardant ces pierres, ces cristaux, c'est aussi que parfois on a l'impression d'œuvres d'art, mais effectivement d'œuvres d'art naturelles, sculptées par la nature.
Et oui, parce que la nature est le plus grand artiste qui soit. Elle arrive à combiner des couleurs ensemble. Je pense à un échantillon dans la collection d'azurite et de malachite. Un vert foncé, un vert brillant prairie et un bleu foncé très brillant. Si vous associez ces deux couleurs pour un créateur de mode, c'est extrêmement risqué, mais la nature a tous les coups fait juste.
Et elle nous bluffe. Hein. Autour de la question, pourquoi les pierres sont si précieuses? Alors, elles ont depuis toujours aussi été recherchées, ciselées par les hommes. On a l'impression aussi, Cristiano Ferraris, qu'aujourd'hui, plus que jamais, les minéraux sont extraits et font l'objet de toutes les convoitises.
Les minéraux, ils sont partout. Dans tous les objets qui nous accompagnent dans notre vie quotidienne, que ce soit la voiture, le téléphone, le microphone qu'on a devant, l'électronique, tout. Donc, ils sont pas forcément reconnaissables dans les objets qu'on utilise tous les jours, mais en effet, l'industrie fait que on puisse transformer ces minéraux naturels d'origine naturelle en produits utilisables par l'homme. Heureusement qu'il existe encore des musées comme le Muséum où des expositions permettent de montrer aux gens quel est l'aspect originel de ça. Et pourquoi les hommes et les civilités ont été toujours fascinés par ces objets naturels.
Oui, de tout partout, enfin sur toutes les latitudes, sur tous les continents, les pierres ont été sacrées, elles sont aujourd'hui...
Elles ont été sacrées, il ne faut pas oublier que le premier moyen d'échange, la première monnaie, c'était en pierre. Donc, sans parler des métaux précieux, parce que si on rentre dans le discours de l'or, de l'argent, de platine, alors là, elles sont raison de guerre.
Elles sont toujours aujourd'hui.
Elles sont toujours raison de guerre, comme toutes les ressources ressources naturelles.
Voilà. Elles sont extraites parfois dans des pays du Sud, dans des conditions qui seraient vraiment à revoir, pour les hommes comme pour la nature, parce que les métaux extraits de ces minéraux polluent aussi. Et vous travaillez là-dessus aussi, quand on travaille sur la minéralogie, c'est gigantesque.
En fait. Oui. Alors effectivement, il y a l'aspect patrimonial qui est magnifique, on parle de saphir, de diamant, de pierre illustre qu'on fait l'histoire de France et l'histoire d'autres nations, mais il y a aussi effectivement, quand on exploite ces ressources, sur cela, non seulement quelquefois la biodiversité est mise en danger, mais aussi la géodiversité, parce que beaucoup de ces magnifiques cristallisations disparaissent dans les broyeurs pour faire des
métaux. Pourquoi on extrait le coltan nécessaire au téléphone portable ?
Voilà, ou des métaux que l'on extrait, le minerai de fer. Alors actuellement, pour extraire l'essentiel du fer qu'on en trouve dans nos voitures et ailleurs, c'est des collines entières qui passent en poussière au Brésil et en Australie. Et donc, on n'a pas conscience de ça. Et moi, j'ai eu la chance d'y aller en 2011, d'aller voir ça. C'est très impressionnant de voir ces pauvres collines qui ont été avalées par des broyeuses.
Cette beauté aussi qui voilà. est avalée par des broyeuses. Hein.
Et puis après, effectivement, il y a le poste mine, comme on dit, c'est-à-dire tout ça crée des déchets. Et comme les métaux ne sont plus dans leur état minéral d'origine, ils commencent et ils polluent le milieu naturel. Et on a ces pollutions mercure, par exemple, à cause des orpailleurs
en Guyane
et dans toutes les forêts tropicales. Et équatoriales, entre autres, qui ont des conséquences absolument dramatiques sur la chaîne alimentaire et notamment sur l'empoisonnement, les taux de natalité des populations.
Vous étudiez ça aussi parce qu'il y a aussi, un versement ou des minéraux qui peuvent aider à dépolluer aussi le sol.
Et effectivement, et après, on peut utiliser des minéraux qui peuvent aider à polluer parce que ces minéraux-là, notamment à des sortes d'argile qui sont utilisées pour effectivement, comme elles sont dans leur état normal, naturel, elles peuvent être utilisées justement pour neutraliser justement ces pollutions qui sont dues à l'activité humaine.
Autour de la question, pourquoi les pierres sont si précieuses et pourquoi les cristaux, on va y revenir à ces grands cristaux géants, nous fascinent. Je propose de nous arrêter justement sur la collection de cristaux géants du muséum. Collection remarquable, 80 spécimens, tous plus étonnants, majestueux les uns que les autres. On s'arrête devant un fabuleux quartz géant à l'entrée de cette exposition. C'est le préféré de Thomas Grenon, directeur général du muséum, qui le décrit au micro de Charlie Dupiau.
On est devant un quartz qui fait partie de la collection des cristaux géants du muséum. Elle vient du Brésil, du Minas Gerais.
Donc ce quartz est en fait blanc, transparent à certains endroits. Il fait plus d'un mètre et demi de longueur, un mètre de hauteur.
Voilà, il pèse plus d'une tonne, une tonne deux, c'est donc une très grosse pierre. Quand on pense minéral, souvent on pense froideur, on pense pas forcément merveille et chaleur. Et ici, on est, je trouve, saisi dans cette atmosphère par justement quelque chose d'aérien, quelque chose de merveilleux qu'on voit dans cette pierre avec ses couleurs qui passent très finement d'un bleu vert, un rose violacé pour aller vers un orange et le tout en transparence. Elle a beaucoup de matière à l'intérieur. Hein. On voit en transparence non seulement la couleur qui varie, mais des tas de formes, des bulles, des
aiguilles aussi,
des
presque.
Aiguilles, des volumes, oui, exactement, qui prennent la lumière. Donc une richesse de la matière très forte. On rentre à l'intérieur. Et alors, ce quartz, petit à petit, on le regarde et on s'amène à se poser des questions et on se demande pourquoi ces formes, on se demande comment ces pierres sont nées, on se demande d'où viennent leurs couleurs, et puis petit à petit ben on apprend tout ça et on, c'est, je dirais, un des grands charmes de travailler sur la nature. C'est que la nature, ben, dès qu'on commence à la regarder, on commence à l'aimer. Et quand on commence à l'aimer, on commence à la protéger. Et ben, devant ces merveilles, on a envie de comprendre et ben, on essaie d'expliquer.
Comment expliquer justement ces cristaux géants? Alors déjà le gigantisme et la beauté de ces cristaux.
En effet, il s'agit d'objets tout à fait particuliers. C'est pas quelque chose de commun dans la nature. C'est pour ça qu'ils font partie d'une collection, j'ose dire, unique au monde.
Unique au monde, oui.
Ouais, et qui a été mise ensemble grâce à la sensibilité d'un personnage qui est encore vivant aujourd'hui, Monsieur Ilia Delef. Qui a permis de sauver ces énormes cristaux de quartz de la taille, parce que ces cristaux de quartz à l'origine ils étaient destinés à l'industrie de l'optique, donc justement pour leurs caractéristiques de transparence et toutes les autres caractéristiques physiques exceptionnelles de ces cristaux. Donc cette collection, elle est arrivée au muséum elle aussi au début des années 80 et elle compte justement, comme Monsieur Greno disait, environ 80 objets. Et dans l'exposition aujourd'hui, on a décidé d'exposer qu'une petite vingtaine de ces objets, parce qu'ils sont vraiment énormes, donc au-delà de la place.
Et pourquoi ils sont, enfin, ce gigantisme est assez étonnant aussi.
Parce que
cette beauté, enfin, c'est fascinant complètement.
Ils ont eu la chance d'avoir des conditions de croissance tout à fait stables et particulières. Donc, si vous avez, pendant la cristallisation et la croissance des cristaux, la possibilité que ces conditions soient suffisamment stables pendant une période de temps, on parle de centaines de milliers d'années, millions d'années, dizaines de millions d'années, vous avez, et s'il y a de l'espace à disposition, bien entendu, vous avez que certains cristaux assument une taille métrique. Et c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel.
Est-ce que, autour de la question pourquoi les pierres sont si précieuses, pourquoi, est-ce que les pierres sont si précieuses parce qu'elles sont rares? Est-ce que c'est spécialement rare, justement, ces cristaux-là ou d'autres pierres que l'on dit précieuses?
Alors, tout ce qui est exposé dans un musée, pour définition, est quelque chose de rare. Donc, les formes, les couleurs, les tailles des objets que vous avez en exposition sont un choix. Obligé et donc
que vous avez fait vous parmi tous les trésors du musée.
Exactement,
hein, c'est ça, hein.
On a 600 échantillons qui sont exposés et c'était un choix très très difficile parce que on a dans les collections 130 000, donc vous comprenez, c'est quelque chose de très difficile. Et donc ce qui est exposé en effet représente un petit peu la puissance de la nature, donc la forme, la couleur. La nature ne gaspille ni du temps ni de l'énergie. Donc la forme que vous voyez, c'est le meilleur compromis entre les éléments qu'il y avait à disposition, les conditions et l'espace qui était à disposition.
Autour de la question pourquoi les pierres sont si précieuses, il y a aussi des pierres qui contiennent de l'or. Alors les minéralogistes comme vous appellent ça de l'or natif, c'est ça? Ou de l'argent natif?
Oui, c'est une dénomination un peu, je dirais, vernaculaire entre minéralogistes, d'appeler ça natif. Je sais pas trop exactement l'origine de ça, mais c'est très poétique, c'est très joli. Tout ça pour dire que quand l'or est natif, c'est-à-dire qu'on le trouve naturellement dans la nature.
Et là aussi, ça fait des concrétions, ou des formes.
Oui, il y a plein de formes différentes et l'or est un grand artiste de ce point de vue-là dans la nature. Il a surpassé la créativité humaine de plusieurs ordres de grandeur. On connaît des fils, on connaît des concrétions, on connaît des pépites, on connaît des cristaux, on connaît des globules, on connaît des sortes de pyramides avec des degrés divers. C'est d'une richesse absolument incroyable. Et justement, dans l'exposition Trésors de la Terre, on montre une très belle sélection de toutes ces cristallisations qui sont vraiment étonnantes.
Autour de la question pourquoi les pierres sont si précieuses et pourquoi elles roulent, on écoute Like a Rolling Stone dans une jolie version signée Sushila Raman sur RFI.
Once upon a time you dressed so fine, you threw the bums a dime in your prime, didn't you? People called to say beware, you're bound to fall, you thought that they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging for your next meal. How does it feel? School, all right, Mr. Lonely, but you know you only used to get used in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street. Now you're gonna have to get used to it. You said you'd never compromise with a mystery trap, but now you realize he's not selling any alibis. As you stare into the vacuum of his eyes and say, do you want to make a deal? How does it feel? How does it feel to be without a home? No direction.
Like a Rolling Stone, pierre qui roule, version Sushila Raman sur RFI, autour de la question pourquoi les pierres sont si précieuses et comment expliquer une telle géodiversité et beauté de ce monde minéral que nous découvrons avec nos invités, le professeur de minéralogie François Farge et Cristiano Ferraris, chargé de conservation pour la collection de minéralogie du Muséum National d'Histoire Naturelle, dans l'exposition Les Trésors de la Terre au Muséum, où nous vous proposons un dernier éclairage, celui du professeur Guillaume Lecointre, spécialiste de l'évolution.
Moi, j'ai usage de dire dans mes conférences que la matière change tout le temps, c'est vrai, et c'est une question d'échelle de temps. Tôt ou tard, elle changera à l'échelle où nous, on change. Nous, on change très vite, en fait. Hein. On vieillit, on change très vite. Un minéral nous semble stable. Or, au cours du temps, il s'altère forcément. Cette idée que le minéral nous semble stable, il nous donne l'image d'un monde figé, alors que même chez les minéraux, à des échelles de temps beaucoup plus longues, bien sûr, mais la composition matérielle de ces minéraux, elle change aussi. Quoi. Ça serait joli qu'on arrive à dire que les minéraux changent au cours du temps.
Partager l'avis de Guillaume Lecointre, ça serait joli qu'on arrive à dire ça, que les minéraux changent. Vous, vous savez, vous, qu'ils changent.
Et pourtant, ils bougent. Si je voulais paraphraser Galilée.
Ils bougent aussi, les pierres, elles bougent aussi.
Mais il y en a qui bougent vraiment très vite, en fait. On s'en rend compte assez rapidement. Il y a des cristaux, par exemple, le cristal de sel dans les marais salants, cristallise extrêmement rapidement. Les paludiers, en quelques jours, les paludiers sont des grands magiciens qui font naître des cristaux de sel dans leur marais. Et par contre, mais c'est vrai que si on prend à l'opposé, il y a le diamant, qui est certainement un des minéraux qui est certainement les plus lents à se construire et à cristalliser, et là sur des milliards d'années quasiment.
C'est peut-être pour ça qu'il est si précieux, justement.
Ah, il est si précieux parce qu'il a plein de choses pour lui. C'est-à-dire qu'il est brillant, il est dur, il est rare, effectivement. Donc, le diamant, c'est vraiment une petite exception. C'est effectivement un des minéraux les plus extraordinaires qui soient.
Quels sont les diamants les plus rares ou les plus précieux? Ce sont les diamants les plus transparents, les moins...
J'irais, c'est ceux qu'on présente au muséum, à l'exposition.
Et oui.
Non, prosaïquement, c'est à la fois des cristaux naturels qu'on a trouvés dans la roche et qui n'ont pas été broyés, qui n'ont pas été retaillés.
Des
diamants bruts, mais le mot brut fait un peu botte de décoffrage, si je me permettais l'expression.
Mais alors que c'est un raffinement absolu.
Enfin oui, c'est magnifique, c'est des formes incroyables, mais il y a aussi des diamants taillés qui illustrent le travail de l'homme. Et par exemple, pour revenir sur le diamant bleu de Louis XIV, là on arrive à la quintessence entre un travail admirable de la nature et le travail admirable de l'homme.
Donc. Est-ce qu'il n'y a que sur Terre, puisqu'on a dit qu'il y avait des pierres ailleurs aussi, on va y revenir, venir. Il y a d'ailleurs une magnifique, extraordinaire collection de météorites au muséum. Est-ce qu'il y a que sur Terre que les pierres sont aussi colorées que cela?
Ça, c'est une bonne question. J'aimerais bien faire partie de la prochaine mission qui va partir dans les espaces intersidérales
pour
vous répondre.
Pour faire de la minéralogie intersidérale.
En effet, bon, quand on regarde la planète Mars, elle est rouge. Donc, avant, on parlait de la rareté des minéraux rouges.
Ah, peut-être que sur Mars.
Il y a des oxydes, notamment la rouille, elle a une couleur rouge, donc c'est un hydroxyde de fer.
Donc elle pourrait donner des pierres de couleur.
Sûrement sur les planètes du système solaire, mais aussi sur toutes les autres planètes que nos collègues astrophysiciens viennent de découvrir maintenant presque tous les jours. Je m'étonnerais pas qu'il y a des minéraux colorés, parce que la couleur des minéraux, quelle est la nature de la couleur des minéraux? La nature de la couleur d'un minéral est lié à sa chimie. Et donc, les éléments chimiques qui sont présents partout dans l'univers, sauf la preuve du contraire. Et donc, je vois pas pourquoi ailleurs, les minéraux ne devraient pas être colorés. Peut-être qu'ils ont des teintes légèrement différentes de celles terrestres, parce qu'il faut pas oublier que sur la Terre, nous vivons sous une couche d'oxygène qui nous permet de vivre, mais ils nous oxydent aussi. Et donc, c'est pour ça que vieillissons. Et donc, minéraux, ils sont pas stables.
Cet oxygène qui nous fait vieillir, qui oxyde, qui fait que les minéraux ne sont pas stables, c'est aussi cet oxygène qui donne sa couleur aux minéraux.
Non, pas nécessairement. C'est l'oxygène qui est lié à d'autres éléments comme les métaux, par exemple, que ce soit le fer, que ce soit le chrome. Le chrome, il peut vous donner des couleurs très différentes, que ce soit selon les liaisons chimiques à l'intérieur des différentes espèces minérales. Donc, vous avez dans le rubis qui vous donne la couleur rouge, par exemple, dans d'autres qui est plutôt lié à un vert très très foncé, et voilà. Donc
tout ça sont des réactions chimiques, hein.
C'est des liaisons chimiques plutôt que des réactions. Oui. Donc ça dépend de comment un élément il est lié à un autre. Et sans rentrer dans les détails, quelle est la structure électronique qui est à l'alentour de cette liaison. Voilà. Donc,
il reste encore énormément de choses à comprendre sur la formation de ces minéraux, sur leur création. Qu'est-ce que vous aimeriez comprendre? Qu'est-ce que vous cherchez? Sur quoi portent vos recherches, Cristiano Ferraris?
Nous, on cherche de comprendre ce que la nature fait tous les jours. Ça, c'est le travail d'un scientifique, j'imagine. On essaye de comprendre pourquoi la nature est si capable et habile et rapide à faire les choses, quand pour nous comprendre un seul phénomène, ça nous prend des années de travail. Donc, déjà comprendre comment les minéraux se forment, comment les roches, qui sont des assemblages de minéraux, ils se forment, ils ont certaines caractéristiques mécaniques, par exemple, les roches qui sont utilisées dans les constructions et tout ça. Et nous cherchons des réponses qui ne sont pas faciles à trouver, mais vu qu'on est des bons scientifiques, on essaie de persévérer sur ça.
Et vous, François Farge, quelles sont vos recherches? Parce qu'elles portent dans deux domaines, hein, à la fois patrimonial et sur de l'environnemental.
Hein. Oui, c'est ça. Donc l'environnemental, donc c'est notamment sur le devenir notamment des métaux lourds. Je travaille beaucoup sur le sélénium en ce moment. Donc ce sélénium qui a été extrait à un moment donné, donc qui a été déstabilisé, qui a été utilisé dans des tas de produits, notamment la microélectronique, l'industrie microélectronique en utilise beaucoup, et qu'on rejette sous forme dans des eaux d'exor industrielles et qu'il faut recycler, parce que si on a trop de sélénium dans l'eau, il a à peu près le même rôle que l'arsenic. Donc au niveau propriété chimique. Donc j'ai pas besoin d'expliquer aux gens le problème que peut avoir de trop forte concentration de sélénium. Et alors on s'est rendu compte qu'il y avait des tas de bactéries justement qui étaient en relation avec ce sélénium.
Vivant avec du minéral.
Au fond des stations d'épuration, comme quoi vous voyez, les minéralogistes ne font pas que dans le beau diamant au doigt des princesses, hein. De temps en temps, on va aller dans des zones un peu malodorantes. Et là on se rend compte qu'il y a des tas de bactéries qui recréent les minéraux de sélénium tels qu'ils existaient à l'origine. Donc on voit un cercle très vertueux
entre le vivant et ce qui a été extrait.
Et c'est-à-dire c'est le rôle inverse de l'homme. C'est-à-dire l'homme a sorti des métaux et les a mis sous une forme un peu toxique. Et on voit qu'il y a des bactéries qui très gentiment, gratuitement, nous font exactement l'inverse dans des zones qu'on n'imaginerait pas. C'est-à-dire le fond d'une station d'épuration.
Magnifique bactérie. Est-ce qu'il reste encore des pierres à découvrir sur Terre et ailleurs? Alors ailleurs évidemment, hein, mais sur Terre déjà.
Sûrement. Année, il y a environ entre 80 et 100 nouvelles espèces minérales qui sont découvertes.
Chaque année,
oui. Mmh.
Espèce.
Donc, quand on parle d'une espèce minérale, on parle d'une composition chimique bien précise et d'une structure cristallographique bien, bien précise aussi. Et on pense que on devrait arriver d'ici une dizaine d'années à avoir environ 7000 espèces par rapport aux 5000 connues aujourd'hui.
Mmh. Et il y a eu une grande découverte, si je peux me permettre. Elle est française, la plus grande découverte de minéralogie, je dirais, ces dernières années, elle est française. Hein, c'est sur la plage de Trébeurden, donc dans les Côtes d'Armor. On a trouvé donc un minéral que tout le monde foulait du pied, puisque c'est le minéral qui constitue une des plages des environs de Trébeurden. Il y en a des mètres cubes, il y en a des tonnes.
Et comment on s'appelle? Et
la Trébeurdenite, voilà. Avec un accent même pour les Anglais, cocorico. Et on pensait pas que c'était un minéral nouveau. Il ressemblait beaucoup à un minéral classique, une sorte d'argile, on va dire. Et finalement, donc des chimistes donc de Rennes ont regardé tout ça et ont pu déterminer que c'était un minéral nouveau.
La Trébeurdenite. Merci d'être venu en direct, nous la faire découvrir et nous faire partager cet émerveillement, hein, et vos recherches également sur ce monde minéral fascinant à découvrir au muséum dans cette fabuleuse exposition. Le mot n'est pas trop fort. Trésor de la Terre, mais aussi dans un livre tout aussi bluffant, Trésor de la Terre également, coédité par Artlist et le Muséum. Vous revenez quand vous voulez nous faire rêver de pierres, de diamants, de minéraux et de cristaux géants. On en demande. Merci à vous.
C'est noté, merci.
Merci beaucoup.
Autour de la question sur internet, www.rfi.fr.
Demain, comme tous les vendredis, c'est Sophie Joubert que vous retrouverez à ce micro. Amis auditeurs, quant à nous, Charles Pélabon, Caroline Fillette, Caroline Lachowski, nous vous donnons rendez-vous lundi pour demander la Lune. Rien que ça, avec nos invités, les astronautes Claudie Aigneret et Jean-François Clairvoy. À l'occasion de la prochaine éclipse solaire, nous allons encore briller de mille feux ensemble. Merci de votre curiosité, merci de votre fidélité. Surtout, gardez l'esprit libre et ouvert. Dans 30 secondes, un nouveau journal sur RFI.